le 4 mai 2002 dans le cadre du mois de l'anarchie à Montréal qui était organisé en lien avec le troisième salon du livre anarchiste. Chekhov Feeney du Workers' Solidarity Movement en Irlande a parlé au Café Chaos sur l'histoire des mouvements sociaux et nationaux en Irlande, mais aussi sur son implication dans le Workers' Solidarity Movement et comment les anarchistes s'impliquent dans les luttes au jour le jour aujourd'hui en Irlande.
Donc, il dit bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour lui d'être ici aujourd'hui. Il va commencer par remercier la NEFAC, notre groupe politique qui a organisé l'événement. Il va parler de l'histoire de l'anarchisme en Irlande et ses liens avec d'autres mouvements sociaux qui ont existé en Irlande. Donc, l'histoire de l'anarchisme et des mouvements sociaux, les mouvements révolutionnaires en général, débute en Irlande à la fin du 18e siècle, à peu près au même moment que la Révolution française. Donc, en 1871, c'était la fondation du United Irishmen, ce que Chekhov considère le premier mouvement révolutionnaire moderne en Irlande. Donc, il explique en disant que au lieu d'être un mouvement qui voulait revenir à une époque qui était avant la domination anglaise, c'était de créer quelque chose de nouveau à partir de ce contexte-là. Donc, au début des United Irishmen, les dirigeants de ce mouvement-là étaient en général hostiles au socialisme, puis hostiles au mouvement des travailleurs, au syndicalisme. Mais à travers le temps, ils se sont rendus compte que pour bâtir un mouvement politique, il fallait qu'ils adressent la réalité des sans-propriétés. Donc, ce qu'ils faisaient, une de leurs activités, c'était des groupes de lecture pour travailleurs et travailleuses. Un des textes qui a beaucoup influencé le mouvement, c'est « The Rights of Man » de Thomas Paine. Donc, ce qui est notable du United Irishmen, c'était qu'il était anti-sectaire. Donc, ce qui veut dire anti-sectaire en Irlande, c'est qu'il faisait pas de différence de religion. Les dirigeants du mouvement étaient pour la plupart protestants, mais les membres, le membership, étaient catholiques. Donc, en mai 1798, dans plusieurs villes de l'Irlande, comme Wexford, Down et Antrim, il y a eu des affrontements entre les forces de l'ordre et ce mouvement-là, auxquels il y a des dizaines de milliers de personnes ont participé. Ces mouvements-là, ces affrontements-là ont été défaits. Puis, une des causes et ensuite une conséquence de la défaite des United Irishmen, c'est l'ordre orangiste, donc une milice anticatholique qui a fait beaucoup pour nourrir le sectarisme en Irlande. Donc, à travers les siècles suivants, il y a eu beaucoup de mouvements rebelles contre le règne de l'Angleterre. Donc, en général, ces mouvements-là conséquents contre l'Angleterre ont perdu un peu de leur caractère républicain. Puis, c'était plutôt vers un mouvement national catholique que les choses allaient. Donc, on fait un saut dans l'histoire jusqu'aux années 1870, ce qui est en Europe, ce qui marque la fondation de la Première Internationale, des travailleurs et travailleuses. En Irlande, il y avait des branches de la Première Internationale à Dublin, Cork, Belfast et Coot Hill. Quelques mois après la fondation de la Première Internationale en Irlande, ça a été cassé par, des masses en délire de catholiques qui étaient offusqués par le fait que, durant la Commune de Paris, qui était aussi une œuvre, de militants de la Première Internationale, à la Commune de Paris, il y avait beaucoup d'activités anti-religieuses. Donc, ces gens-là étaient scandalisés par le fait L'évêque de Paris avait été tué durant la Commune de Paris. Donc, dans les années 1880, il y a eu un développement généralement des idées socialistes et anarchistes en Europe. Et ça, conjointement en Irlande, l'anarchisme a fait du progrès aussi. Donc, le premier anarchiste irlandais connu, c'est W.G.H. Smart, qui écrivait pour des journaux anarchistes anglais. Par contre, pendant une longue période de sa vie, il vivait à Boston. Donc, 5 ans plus tard, il y a eu une branche de la Ligue socialiste qui a été fondée en Irlande. C'était Michael Gabriel, un anarchiste anglais, qui a aidé à fonder ce groupe-là. Donc, c'est le premier groupe qui a fait la diffusion de littérature anarchiste en Irlande. Donc, ça marque un peu un développement des idées, un développement théorique de l'anarchisme en Irlande. Donc, ça a duré seulement 1 an, ce groupe anarchiste-là. Il y a eu 2 raisons principales pourquoi que ça l'a terminé. La première raison, c'est qu'il y a eu une scission avec des socialistes libertaires dans d'autres pays. Et deuxièmement, c'est que de plus en plus en Irlande, il y avait un peu un mouvement que lui appelle le « home rule ». Mais moi, librement, je traduirais ça pour peut-être un peu comme qu'on a connu ici au Québec, « made chez nous », ou un mouvement, disons, nationaliste qui veut que... un contrôle national sur la vie. Donc, il dit que c'est un thème récurrent dans l'histoire de l'Irlande, que les mouvements socialistes ou les protestations sociales ont été peut-être pas récupérés, mais envoyés dans un vacuum nationaliste, ou que quand il y avait possibilité d'une lutte de libération nationale ou d'un mouvement nationaliste, les luttes sociales se faisaient, disons, on pourrait dire, manger par la grande lutte nationale. Donc, les premières années du 20e siècle ont été des années d'intensification des luttes sociales, de la guerre de classe chez la classe ouvrière irlandaise. Et c'était à cause d'une pauvreté extrême qu'ils vivaient. Le taux de mortalité à Dublin était de 27,6 personnes sur 1000, ce qui ressemble à un taux de mortalité de Calcutta ou de l'Inde. Donc, il y a eu une vague de grèves qui ont été déclenchées à ce moment-là, dont la grève au port, au port de Belfast en 1907, il y a eu des soldats britanniques qui ont tiré sur les grévistes durant la grève. Le ITGWU était un syndicat de métier qui a été formé, un syndicat de métier radical qui a été formé en 1909 par James Larkin. Et donc, ce syndicat-là était un peu le centre de toute l'activité, la contestation sociale du début du 20e siècle en Irlande. Donc, si le ITGWU était certainement pas anarchiste, il y avait une structure organisationnelle qu'on pourrait appeler syndicaliste révolutionnaire, un syndicat à la base, qui ressemble un peu beaucoup au IWW qui existe ici en Amérique. Donc, un homme qui a joué un rôle significatif dans le syndicat, c'était James Connolly. Au moment de la fondation de l'ITGWU, il habitait en Amérique, donc avec d'autres camarades irlandais, dont Patrick Quinlan. Il a formé un local, The Industrial Workers of the World, IWW, à Newark, au New Jersey. Donc, par la suite, il est devenu secrétaire du IWW, puis il a construit un secteur industriel qui était le secteur de la construction, j'imagine, dans la région du Nord-Est. Puis cet homme-là est retourné en Irlande et il s'est joint au ITGWU. Mm-hmm. Puis vers 1913, l'ITGWU avait réussi à organiser, donc à syndicaliser des travailleurs qu'on appellerait non qualifiés. Donc, les patrons voyaient comme la montée de cette ferveur militante-là. Donc, ils ont pris comme une action, ils ont pris de l'action préventive. Ils ont fait un lock-out à l'ensemble des syndicats de l'ITGWU. Ils ont fermé les portes. Donc, même si les patrons ont finalement réussi leur coup avec l'aide de la violence d'État, entre autres. Cette lutte-là, le lockout, ça l'a vu la formation de Citizens Army, qui était une milice ouvrière qui servait à défendre les grévistes des attaques de la police. Donc la milice était organisée par Captain Jack White, qui plus tard s'est battu du côté républicain en Irlande et a même été en Espagne durant la Révolution. Et c'est en Espagne durant la Révolution de 1936 qu'il est devenu anarchiste. Donc le Easter Rebellion, la rébellion de Pâques en 1916, a envoyé l'Irlande vers son indépendance, mais en même temps a vu les luttes sociales en Irlande se faire reléguer aux luttes nationales. Donc les leaders nationalistes de l'indépendance en 1916 étaient généralement hostiles au socialisme. Puis par exemple, le Sinn Féin était opposé à l'ITGWU durant le lockout. Donc quand James Connolly a envoyé 500 personnes ou 500 hommes du Citizens Army se battre aux côtés des nationalistes pour l'indépendance, effectivement, il était en train de reléguer la question sociale à une importance qui serait après la libération nationale. Même s'il y avait certaines tendances socialistes à l'intérieur du mouvement de libération nationale de l'Irlande, en général, c'était pour changer le règne britannique pour un règne irlandais. Donc, ils ont changé des maîtres anglais pour des maîtres irlandais. Donc, par contre, la ferveur révolutionnaire de l'indépendance a vu beaucoup d'autogestion ouvrière par rapport à l'État britannique. Donc, le plus notable, c'est le Soviet de Limerick de 1919, qui était inspiré des Soviets de la Russie révolutionnaire de 1917. Donc, le Soviet de Limerick a callé une grève générale et a pris contrôle de sa ville pendant deux semaines, défiant l'ordre britannique. Donc, la partition de l'Irlande en 1921, qui a donné l'indépendance à la partie sud de l'Irlande, a consolidé le triomphe du nationalisme et la défaite de la gauche. Donc, le sud de l'Irlande est resté pendant des décennies un pays appauvri, insulaire, isolé, qui avait une vie intellectuelle qui était étranglée par l'influence dominante de l'Église catholique. Donc, pour vous donner une idée de ce qu'était le mouvement révolutionnaire en Irlande à ce moment-là, il y avait une seule librairie révolutionnaire, puis c'était une librairie communiste et était tout petite. Donc, il y avait une vigile constante 24 heures sur 24 par des catholiques, j'imagine, la vigile de Marie, qui priait pour les pauvres âmes des communistes qui étaient à l'intérieur. Mais c'était pas inhabituel non plus pour des protestants de retrouver des catholiques devant les portes de leur maison en train de prier pour leur âme à eux. Donc, pendant des décennies, à travers le 20e siècle, le pays est resté pauvre. Il y avait des dizaines de milliers de personnes qui ont émigré à chaque année pour, disons, une vie sociale meilleure. Ils sont allés dans les villes de l'Angleterre, des États-Unis, même ici au Canada et en Australie. Donc, dans le nord de l'Irlande, l'État britannique a mis sur pied une organisation sectaire pour garder contrôle de ce territoire-là. Donc, durant cette période-là, des années 20 aux années 60, la question qui était non résolue, la question de la frontière entre le sud et le nord, a fait encore une fois que la plupart des luttes sociales étaient, l'énergie de ces luttes-là était transférée vers les luttes nationales. Il y avait des mouvements socialistes, mais en grande partie, il demeurait seulement des courants, des tendances à l'intérieur du mouvement nationaliste. Les années 60 ont vu le réveil des mouvements sociaux tant au nord qu'au sud de la frontière. Et ça a aussi été la première fois qu'on a vu des anarchistes en Irlande depuis les années 1880. La plupart des militants et militantes qui venaient à l'anarchisme à ces moments-là avaient touché les luttes avant tout dans le républicanisme, dans les mouvements nationalistes, mais c'est à travers le temps, à travers les luttes qui ont évolué vers l'anarchisme. Donc, dans le Nord, le mouvement des droits civiques ou les droits sociaux a débuté en 1968, quand la population catholique a refusé de se faire traiter ou de vivre encore plus longtemps comme des citoyens de seconde classe. Donc, un des groupes les plus importants de cette époque-là, c'était People's Democracy, la démocratie populaire. Donc, même si éventuellement ce groupe-là a été récupéré par les trotskistes, au départ, beaucoup d'anarchistes s'impliquaient dedans. Donc, encore une fois, la logique du nationalisme a pris le dessus sur l'émergence de ces mouvements sociaux-là. Et c'est en particulier un transfert vers une lutte militaire de l'IRA, la militarisation des luttes qui a fait en sorte que des luttes populaires à la base pouvaient moins exister. Donc, encore une fois, à cause de questions tactiques, militaires, nationalistes, la question sociale, l'organisation de la vie commune, l'organisation sur le lieu de travail, était reléguée à plus tard à cause de ces questions-là qui étaient supposément plus importantes. Donc, dans le sud de l'Irlande, dans les années 70, les gens qui étaient impliqués avec l'IRA officielle sont venus à s'intéresser à l'anarchisme et ont fait des liens avec des anarchistes. Et ils sont appelés par différents noms. Un nom, c'était le Dublin Anarchist Group, le groupe anarchiste de Dublin. Et l'autre, c'était New Earth, Nouvelle Terre. Donc, leur existence était brève et pas très connue. La plupart d'eux ont été emprisonnés à cause d'attentats armés ou de luttes armées. Donc, deux des membres de ces groupes anarchistes-là, Noel et Mary Murray, ont été condamnés à la peine de mort pour leurs activités. Par contre, quelques années plus tard, ils ont été libérés à cause d'une campagne internationale de solidarité. Donc, malgré leurs bonnes intentions, ils ont quand même fait très peu pour développer l'anarchisme en Irlande, et même qu'ils sont un peu restés dans le stéréotype qu'anarchiste égale terroriste. Donc, à la fin des années 70, des petits groupes anarchistes ont réémergé dans plusieurs villes de l'Irlande. Donc, beaucoup de ces groupes-là ont attiré des gens qui s'identifiaient comme anarchistes, mais dans les groupes, il y avait très peu d'entente sur une entente sur comment que les gens voyaient le monde ou comment que les gens voulaient lutter pour changer le monde. C'était un assemblage mécanique d'individus. Il y a beaucoup des anarchistes qui ont été désillusionnés par ça. Par le manque de structure, le manque d'organisation dans les groupes anarchistes. Donc, ils ont décidé de former une organisation anarchiste formelle orientée vers les luttes de la classe ouvrière. Donc, c'était un long processus d'atteindre ce but-là, d'être organisé en tant qu'anarchiste. Ça a été atteint en 1984 avec la formation du Worker Solidarity Movement. Puis Tchekhov fait partie de ce groupe anarchiste-là, cette organisation anarchiste-là, donc il vient aujourd'hui la représenter. Donc, notre organisation existe depuis ce moment-là, et leur organisation est basée sur la plateforme anarchiste. Ça mériterait peut-être une explication, mais c'est un texte important dans l'histoire du mouvement anarchiste, la plateforme. Donc, le but de la plateforme, c'est de construire une organisation anarchiste cohérente et disciplinée. Donc, ce qu'il dit, c'est que, en fait, je me permets d'élaborer un peu plus, mais il y avait un point complet sur le plateformisme ou pourquoi ils ont choisi d'organiser leur groupe de cette façon-là. Par contre, il n'y aura pas le temps aujourd'hui de rentrer là-dedans. Au lieu, il va vous donner des exemples de luttes dans lesquelles ils s'impliquent et comment ils s'impliquent dans ces luttes-là. Et ça devrait vous donner une bonne idée de leur groupe.
Notre but, donc, c'est de propager et d'intéresser le plus de gens possible à l'anarchisme. Et on croit que le meilleur moyen de faire ça, c'est de s'impliquer dans les mouvements de masse et aussi dans les mouvements de lutte de classe. Donc, on fait une priorité dans un travail avec les syndicats et les autres mouvements de masse. Des campagnes de masse, des campagnes qu'il y a beaucoup de monde impliqué dedans. Donc, ce qu'on essaie de faire, ces mouvements-là, c'est de focusser sur un processus de démocratie directe et aussi d'action directe. Par exemple, cependant, en Irlande, pendant longtemps, le mouvement syndical a été pogné dans des structures sociales où ce qu'il n'y a pas eu vraiment d'activité de massive à la base, mais plus à la représentation. Du partenariat aussi avec l'État. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire un focus pour essayer de faire des changements, pour des changements démocratiques dans les différentes branches des syndicats. Donc, on essaie aussi de faire un réseau des ouvrières et ouvriers à la base pour qu'ils communiquent entre eux autres et aussi faire un support direct des grèves un peu partout. Vu qu'il y a eu quand même... les moyens ont été assez limités à cause justement de la négociation, des représentants syndicaux, puis ça a été assez dur. On a donc, dans les dernières 15 années, focusé sur les campagnes de masse, les campagnes populaires pour dans le travail communautaire. Donc, en 1995, le gouvernement a instauré une taxe sur l'eau à travers l'Irlande, et puis chaque famille ou chaque maison ou appartement devait payer quelques centaines de dollars pour l'eau à chaque année. Donc, on a créé un mouvement de résistance face à cette taxe qu'on a parti, puis au début, le mouvement était quand même assez petit. Donc, le mouvement a grandi jusqu'à 30 000 personnes, 30 000 familles ou maisons qui faisaient un boycott de la taxe, puis qui étaient actifs, puis on a fait des pressions jusqu'à temps qu'elle élimine la taxe in which year was that?
The 1997.
En 1997, la taxe a été éliminée. Donc, on a organisé les quartiers pour que, quand la ville décidait de couper l'eau à une famille qui refusait de payer la taxe, qu'on s'organisait pour bloquer le quartier pour pas qu'ils puissent le faire. Et puis quand les familles étaient amenées en cour parce qu'ils n'avaient pas payé la taxe, ben on s'organisait pour encercler l'édifice de la cour pour le bloquer ou faire tellement de bruit que c'était impossible pour la cour de procéder. Donc, finalement, les pressions, ça a été impossible pour le gouvernement de collecter cette taxe, donc elle a été abolie. Puis en ce moment, on travaille sur une taxe qui est un peu similaire, qui est une taxe sur les déchets. Donc, chaque famille ou chaque appartement doit payer 200 $ pour la collection, pour collecter les déchets, pour que la ville ramasse les déchets. Donc, cette campagne-là marche depuis à peu près un an, puis jusqu'à un an, ça marche assez bien. Il y a à peu près juste un tiers des maisons ou appartements qui ont payé leurs taxes jusqu'à maintenant. Bon, en plus de travailler sur les mouvements de base populaire, on pense que c'est aussi important de travailler sur des formes plus spécifiques d'oppression. Et... Donc, on a fait beaucoup de travail sur les campagnes contre le sexisme, le racisme et la discrimination religieuse. Puis dans ces campagnes-là, on travaille entre autres avec des activistes qui travaillent aussi dans des coalitions plus larges sur un point de vue politique, si on pourrait dire. Donc l'Irlande, pendant longtemps, était un pays où ce que les gens immigraient dans d'autres pays. Mais depuis les 5 dernières années, on a vu beaucoup plus de gens arriver en Irlande. Donc beaucoup justement de personnes de couleur, de personnes d'autres continents qui sont arrivées en Irlande. En ce moment, l'Europe est en train de créer une forteresse alentour de l'Europe contre l'immigration parce que la plupart des gouvernements européens voient que c'est un problème majeur, la question de l'immigration. Donc, on voit notre gouvernement qui sert des réfugiés comme bouc émissaire pour blâmer beaucoup des problèmes sociaux sur ces populations immigrantes et réfugiées. En 1995, notre mouvement s'est intégré dans la formation de la campagne antiraciste, Anti-Racist Campaign, pour justement attaquer le gouvernement sur leur méthode de discrimination face aux réfugiés immigrants et migrantes. Donc, on fait aussi une campagne pour supporter les droits des travelers, qui sont, si on peut dire, un peu comme des gitans, mais qui sont ethniquement irlandais, irlandaises, et qui voyagent un peu partout à travers l'Irlande. Aussi, on a une base d'unité avec différents groupes qui luttent contre les groupes fascistes organisés qui font la distribution, qui organisent d'une manière, la distribution de propagande raciste qui sont organisées dans des groupes fascistes. Bon, vu que notre gouvernement, puis il y a toute une histoire du catholicisme en Irlande et que notre gouvernement a une politique très de discrimination face aux femmes et spécialement par rapport à leur droit à l'avortement. Donc, avant 1979, c'était impossible, c'était illégal d'avoir des contraceptifs. Et puis, juste donner un exemple, jusqu'en 1991, ça prenait une prescription du docteur pour acheter même des condoms, n'importe quel type de contraceptif. Puis, il fallait que tu prouves aussi que tu étais marié puis que tu avais une famille. Donc, en 1995, le divorce a été légalisé pour la première fois. Donc, il a été légalisé par un référendum qui a eu seulement 8 000 de voix de plus pour le légaliser. Donc, notre groupe, le WSM, on était très actifs dans cette campagne-là, justement, pour que les gens votent oui. Donc, l'avortement est encore illégal en Irlande, puis l'Église catholique fait beaucoup de pression, elle fait même passer beaucoup de référendums pour le rendre encore plus illégal. Puis ça, il est illégal même si la vie de la femme est en danger. Donc, il y a eu 4 référendums sur le sujet de l'avortement dans les dernières années, puis le dernier a eu lieu il y a 3 mois, et puis le gouvernement essayait de mettre une sentence ou une possibilité de sentence pour les femmes qui sont déjà faites avorter d'avoir jusqu'à 12 mois de prison.
Oui,
à 12 ans, excusez-moi. Mm-hmm. Donc, on a aidé à fonder en 1992 le groupe pour le droit à l'avortement de Dublin. Et puis, en ce moment, c'est un des seuls groupes qui appelle pour l'avortement gratuit et accessible pour toutes. Bon, en 1992, il y a eu un cas très important qui est allé en cours. Une fille de 13 ans s'est faite violer et est tombée enceinte et est allé en Angleterre pour avoir un avortement. Donc, le gouvernement l'a fait revenir et l'a amené en cours. Et puis, ce cas-là, c'est appelé le cas X. Donc, on a organisé une marche pour protester ce que le gouvernement a fait par rapport à cette fille-là. Et puis, il y a 15 000 personnes qui ont pris la rue et qui ont fait une manifestation contre et pour le droit à l'avortement. Et puis ça l'a poussé pour une première fois une campagne de réforme où ça a fait des pressions que le gouvernement fasse des réformes en matière de l'avortement. Donc, dans le dernier référendum, on a fait partie de l'Alliance pour le non, qui était finalement... C'était une coalition très vaste de différents groupes pour pro-choix, donc de groupes pro-choix. On a distribué des centaines de milliers de pamphlets à travers le pays, porte-à-porte, dans les boîtes à main. Donc, ça a porté fruit parce qu'on a gagné le référendum par 10 000 voix. Le dernier référendum qu'on a parlé était pour les sentences de 12 ans de prison pour les femmes qui ont reçu un avortement. Donc, c'était la première fois que les forces du gouvernement, de l'Église catholique et des pro-vie ensemble ont été défaits dans l'histoire de l'Irlande. Donc, un autre aspect, une autre campagne qui prend beaucoup d'importance, c'est face à une campagne anti-oppression, face à l'occupation de l'Angleterre, de l'Irlande du Nord. Donc, même si l'escalade de la violence a été réduite dans les dernières années, qu'il y a un peu moins de bombes et de tir. La situation en ce moment en Irlande du Nord est quand même une situation de division très forte et de marginalisation très, très forte. Donc, ce qui est un peu triste, c'est qu'on n'a pas personne dans notre groupe en Irlande du Nord pour le fait que les groupes républicains ont quand même beaucoup de contrôle sur les mouvements là-bas et sur la population là-bas. Donc, mais ce qu'on fait, vu même si on n'a pas beaucoup de monde impliqué directement en Irlande du Nord, on participe à beaucoup de manifestations contre l'État anglais et leurs branches, les branches des groupes orangistes qui sont organisés là-bas, leur henchmen, qui est un peu leur bras de fer, là, si on pourrait dire. Donc, notre groupe et d'autres, ben les anarchistes en général, ont participé à la dernière manifestation pour se rappeler le Bloody Sunday, le dimanche sanglant, pour commémorer le 30e anniversaire, où ce que 14 manifestants et manifestantes ont été tirés par l'armée anglaise. Bon, ça nous donne une manière d'être en solidarité avec les familles et les personnes qui sont victimes de cette oppression-là, mais aussi pour distribuer nos idées, notre propagande dans ces manifs-là. Donc, à chaque mois, à chaque numéro de notre revue, on essaie d'avoir un article sur l'Irlande du Nord. Et notre position, c'est d'essayer de pousser aussi une position contre l'impérialisme anglais et la division du territoire par l'État anglais, mais aussi avoir une position antinationaliste. Donc, dans les dernières années, il y a eu vraiment une effervescence des idées anarchistes dans le mouvement qui grandit toujours de l'antimondialisation en Irlande. Bon, dans les dernières années, il y a eu 2 nouveaux groupes anarchistes se sont fondés, donc les deux sont aussi basés dans le nord de l'Irlande. Donc, il y a la Fédération anarchiste qui a été fondée à Belfast et c'est la Fédération anarcho-syndicaliste qui a été fondée à Belfast et la Fédération anarchiste qui a été fondée en Warren Point. Donc, notre but, c'est vraiment de fonder un groupe anarchiste très fort, une fédération anarchiste très fort, mais aussi, on veut créer des coalitions plus fortes avec les différents groupes anti-autoritaires et libertaires. Donc, dans les dernières années, on a focusé à créer une alliance très forte, une coalition très forte des différents groupes anarchistes et libertaires en Irlande dans le sein du mouvement anti-globalisation, anti-mondialisation. Donc, on a créé un réseau de différents activistes, des individus ou des groupes un peu partout pour distribuer nos idées, distribuer nos pamphlets. On a aussi aidé à créer un groupe de Reprenons la rue à Dublin et aussi un groupe de Critical Mass, de masse critique. Comme un peu ici, là, comme Right to Move Fest, c'est-à-dire ralentir le trafic, faire de l'action en vélo. Dans les différentes campagnes qu'on a été impliquées, on essaie tout le temps de créer une coalition des différents groupes anarchistes et libertaires impliqués. Donc, durant la guerre contre l'Afghanistan, on a aussi créé une coalition de groupes anarchistes qui étaient les anarchistes contre la guerre. Ça incluait les trois différents groupes anarchistes des trois différentes fédérations. Et en plus, différents activistes indépendants, indépendantes. Donc, on a fait une manifestation au Shannon Airport, qui est un aéroport dans l'ouest de l'île, où ce que les Américains arrêtaient pour justement prendre du pétrole, c'est-à-dire remplir les avions et remplir la bouffe, etc., pour aller vers l'Afghanistan. Donc, on a aussi créé, ce qui était le plus ambitieux dernièrement, ce qu'on a créé, c'est ce qu'on appelle les grassroots gatherings, les regroupements de base, qui sont un réseau de tous les différents activistes et groupes libertaires et anarchistes qui travaillent dans différentes campagnes, différents mouvements, entre autres le mouvement environnemental et anarchiste en général. Donc, dans la dernière année, on a fait deux réunions du Grassroots Gathering qui ont rassemblé plus de 80 personnes à travers toute de l'île. Puis notre mouvement va assez bien, puis entre autres, on a réussi à... On s'est un peu séparé du sectarisme qui était formé beaucoup, qui affligeait beaucoup d'autres pays face à l'unité entre les différents groupes anarchistes. Donc, finalement, une autre forme de travail qu'on pense très importante, c'est le travail international. Le capitalisme est un système global, donc il faut s'organiser globalement pour le défaire. Donc, on pense que c'est très important que les anarchistes travaillent pour aller au-delà, pour se débarrasser des inégalités qu'il y a entre les différents groupes anarchistes à travers le Nord et le Sud. Donc, on a créé une banque de solidarité internationale où ce qu'on donne 5% de toutes nos cotes de notre groupe et 25% de toutes les publications et de toutes les revues qu'on vend. Donc, on ramasse cet argent-là pour renvoyer à des groupes qui sont impliqués, des groupes anarchistes dans le tiers-monde. Et jusqu'à dernièrement, on a donné de l'argent dans des groupes anarchistes au Nigeria et dans la République tchèque. Donc, aussi, on essaie de donner un support très direct et technique aussi. Par exemple, notre site web et aussi la maison, si on peut dire, où héberge aussi les sites de la CUAC chilienne, qui est une fédération anarchiste au Chili, et aussi des groupes anarchistes en Afrique. On pense aussi que c'est très important de s'impliquer dans avoir des débats entre les différents groupes anarchistes à travers le monde. Donc, on fait un magazine qui se focus beaucoup sur les questions théoriques dans l'anarchisme, puis notre but, c'est de le distribuer pour distribuer justement des débats et des idées à travers le monde. On a aussi organisé beaucoup de tournées, de présentations et de conférences de différents groupes anarchistes à travers le monde. Dernièrement, on a invité un anarchiste de la République tchèque qui est venu nous parler tout ça un peu après les manifestations qu'il y a eu contre la Banque mondiale à Prague en 1999. Donc aussi, on s'implique beaucoup dans différents projets internationaux pour de communication et d'organisation anarchiste. C'est nous, entre autres, on s'est beaucoup impliqué dans que la liste d'emails organisée. Aussi, on a participé beaucoup dans A-Info, qui est un réseau de nouvelles anarchistes autonomes. Aussi, on est rentré dans des projets plus ambitieux dernièrement. Par notre site web, on a essayé de créer un nouveau réseau d'anarchistes à travers le monde pour avoir des débats théoriques sur les différentes causes ou les différentes problématiques. C'est pour écrire des articles, pour développer la diffusion puis développer la théorie anarchiste. Donc, on a produit deux numéros d'une revue qui s'appelle Against War and Terrorism, contre la guerre et le terrorisme. Et c'est une revue qui focus beaucoup sur une perspective anarchiste de la lutte contre la guerre, contre l'impérialisme. Bon, quand le monde voit un peu tout le travail qu'on a fait, tout le monde croit qu'on est un groupe qui est très populaire, qu'il y a beaucoup de monde impliqué, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est plus qu'une centaine. Et même en Irlande, il y a beaucoup d'autres groupes qui pensent que notre mouvement est quand même très, très fort en nombre. Donc, en réalité, le WSM est un très petit groupe. Quand il a été formé en 1994, il y avait 5 membres fondateurs. Et puis en ce moment, on est seulement 13 membres. Même si le nombre 13 peut paraître comme justement un exemple qu'on va se péter la gueule ou qu'on est dû pour qu'un échec total, si on peut voir le nombre de travail qu'on peut faire, on peut montrer aussi notre force. Donc en 1994, quand le WSM a été formé, c'était formé dans un pays où ce que l'anarchisme a été complètement oublié ou inconnu. Donc, il n'y a pas vraiment d'histoire il n'y a pas d'anarchistes très célèbres en Irlande. Il n'y a pas vraiment de mouvements très célèbres non plus. Et puis, il n'y a non plus pas tellement d'histoire de mouvements,
grassroots or militant workers organizations.
Il n'y a pas tellement eu d'histoire de lutte de la base, de groupes organisés de la base non plus. C'est un pays aussi où ce que la gauche en général est pas très forte. C'est plus le centre droit qui est très fort, qui obtient à peu près 70% des votes. Et si on prend le parti comme le Labour, le parti travailleur, il y a seulement 15% des voix en général. Après 2 décennies de l'existence du WSM, le mouvement anarchiste en ce moment est beaucoup plus fort qu'il l'a jamais été en Irlande. Donc on s'est aussi placé comme un groupe très sérieux, un groupe de gauche très très impliqué et très sérieux. On a distribué beaucoup de propagande à travers le pays. On a développé notre expertise, je peux utiliser ce terme-là, plus notre habileté à créer des campagnes, à participer dans des campagnes aussi à travers le pays. L'anarchisme en ce moment est beaucoup plus connu à travers le pays, à travers l'Irlande, qu'il a été jamais connu avant. On a vraiment mis beaucoup de travail à développer des différents réseaux libertaires et anarchistes à travers le pays. Et puis ça commence à porter ses fruits. Donc, la journée avant que je parte, les 3 fédérations anarchistes se sont joints dans la même manifestation contre la guerre en Palestine. Donc, on a organisé beaucoup de choses. Il y avait 3 grandes bannières, il y avait plusieurs pancartes, il y avait plusieurs personnes. Puis, ça a été une des plus grosses manifs, si on peut dire le plus gros contingent anarchiste qu'on a vu en Irlande en ce moment. Après ça, tous les différents activistes des différents groupes se sont rejoints dans le même bar pour discuter, pour boire une coupe de bière, puis parler de théories et de différentes tactiques et stratégies. En général, on pense qu'en ce moment, le mouvement anarchiste est vraiment dans une période très, très en santé. Donc, au lieu de voir notre petit nombre comme une faiblesse, on aime mieux voir notre petit nombre comme un exemple comment le nombre de travail qu'on peut faire avec une petite personne, juste en étant plus structuré, plus impliqué et plus organisé et discipliné. Donc, c'est la fin de ma présentation. Si vous avez des questions, des commentaires ou n'importe quoi, c'est maintenant le temps. Profitez-en et...